Voilà. Donc nous sommes très heureux d'accueillir le père Denis Bijoux-Duval, qui vient donner une session au studium sur le psychique et le spirituel. Le père Denis Bijoux-Duval est prêtre du diocèse de Dijon et il est membre de la communauté de l'Emmanuel. Il enseigne à Rome, à l'université du Latran, où il dirige l'Institut Redemptor Hominis de théologie pastorale et doctrine sociale de l'Église. C'est ça ? Magnifique. Voilà, il a été consulteur au Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. Voilà, je cite juste son dernier livre. Il a écrit un livre sur l'effusion de l'esprit dont il va nous parler ce soir. Mais son dernier livre est sur l'urgence de l'évangélisation avec un titre un petit peu provocateur comme d'habitude. Faut-il encore se soucier du salut des âmes ? Voilà, alors... On est très heureux de l'entendre ce soir nous parler, non pas de ce sujet-là, directement en tout cas, mais du renouveau charismatique catholique, puisque à partir de demain, à Rome, sera célébré le jubilé des 50 ans du renouveau charismatique catholique, dont le père Bijoux-Duval va nous retracer brièvement l'histoire, et avec une grande célébration samedi soir et dimanche avec le pape François. Donc c'est un événement majeur, on va le découvrir j'espère à travers cet entretien de ce soir et vos questions après, qui concerne toute la vie de l'Église à travers le monde entier. On le sait, on a parmi nous des représentants de différents continents et on sait combien le renouveau charismatique est vivant sous toutes les latitudes. C'est une grande grâce de notre temps. On va prendre esprit de sainteté.
Sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous les témoins du Seigneur. Et la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur, esprit de vérité. En toi l'espérance et la fidélité.
Voilà, donc bonsoir à tous et merci à vous d'avoir suscité ce petit moment, puisque de fait, en tout cas pour ce qui est de mon cas personnel, en venant ici, par la force des choses, je ne suis pas au jubilé du renouveau, auquel j'appartiens aussi, donc... Mais voilà, ça nous permet d'expérimenter que l'Esprit Saint ignore les distances et qu'on peut être vivre ce jubilé là où on est. Alors, je vais dans un premier temps vous rappeler quelques événements qui ont marqué la naissance du renouveau dans l'Église catholique, et puis en partie au moins en France. Et puis ensuite, on va s'arrêter sur certaines questions qui aident un petit peu à clarifier les affaires. Donc, qu'est-ce que c'est que ce que certains appellent le baptême dans l'Esprit, d'autres l'effusion de l'Esprit Saint, quel rapport ça a ou ça n'a pas avec les sacrements, qu'est-ce que c'est que les charismes, pourquoi est-ce qu'il y a des charismes dans le renouveau et il n'y en aurait pas ailleurs, enfin, une sorte de questions qu'on peut se poser, parce que ceux qui vivent du renouveau, évidemment, vivent les choses de l'intérieur et quelquefois ne se posent pas tant de questions que ça, mais quand on regarde des choses de l'extérieur, souvent, ça paraît tout de même un phénomène un peu bizarre, et donc, évidemment, ça suscite des questions. Donc, on va essayer de décanter un certain nombre de choses en fonction de la parole de Dieu, de l'enseignement de l'Église, et puis comprendre... quel est le rôle du renouveau charismatique dans l'Église, rôle dont certains sont donc davantage protagonistes s'ils font partie de ce mouvement spirituel, et puis d'autres regardent les affaires d'une façon différente, sachant que de toute façon, tout ce que le Seigneur donne, il le donne pour le bien de toute l'Église. Et donc, qu'on soit dedans ou qu'on soit dans d'autres dons, eh bien, tout ce qui est donné est fait pour nous illuminer. Vous voyez, c'est pareil pour les dominicains, on les appelle les frères prêcheurs, ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'eux qui prêchent. Hein. ou les franciscains qui vivent avec dame pauvreté, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que eux qui sont appelés à être pauvres, mais il s'agit de charismes qui en fait disent quelque chose à toute l'Église. Voilà, alors c'est important à la fois de recevoir ce que le Seigneur veut dire à l'Église à travers cette réalité-là, et puis en même temps de se poser des questions sur vos charismes qui ne sont pas forcément toujours ceux du renouveau, si vous appartenez à d'autres communautés qui ont suivi d'autres lignes et qui ont aussi quelque chose à apporter à toute l'Église. Hein, et comme l'Esprit Saint parle toutes les langues, eh bien c'est tout cela qui fait le beau concert des dons de Dieu dans l'Église. Alors, première chose, un petit peu une donnée historique brève. Donc, nous sommes en 2017, on fête le jubilé, ça veut dire qu'on va se référer à des événements qui remontent à 1967, c'est-à-dire on est à la fin du Concile Vatican II, et ça se passe aux États-Unis, dans la ville de Pittsburgh et dans l'université Duquesne, où un certain nombre d'étudiants catholiques ont été rendus sensibles à cette question de l'Esprit Saint. Ils ont commencé à développer une grande soif de l'Esprit Saint, ceci en partie en contact avec des protestants pentecôtistes. Je dis en partie parce que tout ne se résout pas dans cette affaire-là sous la forme d'une sorte d'importation dans l'Église catholique de choses qui seraient d'origine protestante. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, ces étudiants entrent en retraite sur cette question de l'Esprit Saint, du désir de l'Esprit Saint, et au cours d'une adoration eucharistique, donc au cours d'un acte qui n'a rien de protestant, parce que s'il y a bien quelque chose qui est étranger au protestantisme, c'est l'adoration eucharistique, eh bien, au cours d'une adoration eucharistique, donc ils vivent une expérience de venue de l'Esprit Saint en eux, sur eux, hein, avec des grâces qui relèvent d'une perception peut-être plus sensible de l'amour de Dieu à leur égard, un appel très puissant à l'adorer, et puis finalement aussi à vivre de ses dons et de ses charismes et à évangéliser. Et donc, ils reconnaissent à travers cette expérience ce qui finalement est l'objet du témoignage des Actes des Apôtres, chaque fois qu'il est question de d'effusion ou de baptême dans l'Esprit Saint dans les Actes des Apôtres. Il se vit des choses qui ressemblent fortement à ce qu'eux-mêmes ont vécu, et ou alors aussi autre référence scripturaire dans laquelle tout de suite les personnes qui ont vécu cet événement vont se retrouver, les fameux chapitres de la première aux Corinthiens, hein, au chapitre 12, avec où il s'agit à la fois de l'Esprit Saint, mais plus particulièrement aussi des charismes de l'Esprit Saint, avec des formes concrètes de charismes qui de fait se ressemblent entre l'expérience des Corinthiens et cette expérience de Duquesne à Pittsburgh. Voilà, donc c'est de là que naît le renouveau, qui a un certain retentissement déjà aux États-Unis. Et comment va-t-il arriver en France? En fait, par différents canaux. Donc on ne peut pas dire que le renouveau a débarqué à telle date à Bordeaux ou à Nantes en France, parce qu'en réalité, il y avait déjà des Français qui connaissaient aux États-Unis ceux qui avaient vécu cette expérience, qui ont voulu eux-mêmes y participer, donc à l'intérieur de groupes de prière qui naissaient là-bas. Et puis quand ils sont revenus en France, en fonction de leurs relations, de leurs appartenances, ils en ont parlé, et à travers cela, eh bien, l'expérience s'est diffusée aussi en France, et pas seulement en France d'ailleurs, mais dans le monde entier, sur tous les continents. Alors on se demandait d'ailleurs combien il y avait de personnes qui participaient au renouveau dans le monde. On n'a pas trouvé le chiffre, ça s'évalue sans doute en millions ou en dizaines de millions, je n'en sais trop rien. Mais en tout cas, il s'agit donc d'une réalité qui s'est déployée de façon très puissante dans l'Église. Alors, assez rapidement, les papes ont accueilli et donné, si j'ose dire, une sorte de d'aval, de placette à cette expérience, c'est-à-dire assez rapidement le pape Paul VI accueille cette grâce et invite les personnes qui la vivent à la déployer et en même temps à mûrir cette grâce dans l'Église. Hein. Et alors, on évoquait d'ailleurs un épisode pour ce qui est de la venue du renouveau en France, en ce qui concerne la communauté de l'Emmanuel. Les fondateurs de la communauté de l'Emmanuel, Pierre Goursat et Martine Cata, à l'époque fréquentaient le père Caffarel, pas loin d'ici. Hein. Et lors d'un week-end organisé par le père Caffarel, est arrivé un couple dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui avait vécu l'expérience américaine du renouveau. Et c'est par ce week-end du père Caffarel a commencé à se diffuser l'expérience du renouveau dans ce qui allait devenir la communauté de l'Emmanuel. Donc voilà, donc des choses qui par ailleurs sont proches, vous sont toutes proches. Hein, donc pour ceux qui sont membres de la communauté Notre-Dame de Vie. Donc voilà pour ce qui est de l'essentiel. C'est important de voir que sous un certain angle, c'est une grâce qui, par certains aspects, a précédé dans le pentecôtisme protestant, qui lui remonte vers la fin du 19e, début 20e. Et en même temps, ça n'est pas simplement un copier-coller du pentecôtisme protestant, parce que ça se produit dans un cadre typiquement catholique, et le renouveau charismatique catholique aura, dès le début, le souci d'articuler cette expérience avec une vie chrétienne et d'église complète, c'est-à-dire en particulier avec tout ce qui relève de la vie sacramentelle. Question qui se pose de façon beaucoup moins urgente pour les pentecôtistes, puisque la théologie sacramentelle dans le monde protestant est très incertaine et n'a pas du tout les mêmes caractéristiques que dans l'Église catholique. Alors, si on veut essayer de comprendre davantage ce qui se passe, on peut partir d'un paradoxe qui était signalé par le père Congar dans son livre « Je crois en l'Esprit Saint », dans lequel il dit la chose suivante. Quand quelqu'un reçoit la confirmation dans l'Église, on lui dit « c'est la Pentecôte du chrétien ». Ensuite, on va lire le récit de la Pentecôte ou des autres effusions de l'Esprit-Saint dans les Actes des Apôtres, et on voit que ça se met à fuser dans tous les sens. La prière, les chants en langue, les charismes, etc. On célèbre la confirmation dans l'Église catholique et il se passe rien. Alors en fait, c'est une boutade, parce qu'il se passe quand même quelque chose, sauf que ça n'est pas palpable. Recevoir un sacrement, c'est déjà recevoir une réalité qui va former en profondeur notre âme, à travers en particulier ce que la théologie catholique appelle un caractère sacramentel, hein. Et donc il y a quelque chose qui se passe réellement, mais qui dans sa nature même n'est pas immédiatement expérimentable et palpable, hein. Et d'ailleurs c'est le cas de la réception de beaucoup de sacrements, où finalement dans la foi on sait que le Seigneur vient à travers ce sacrement et qu'il va agir de telle et telle manière en fonction du sacrement, mais on l'accueille dans la foi sans forcément l'expérimenter immédiatement. Or, le propre des récits de baptême ou d'effusion de l'Esprit-Saint dans les Actes des Apôtres, c'est qu'au contraire, c'est très palpable et visible ce qui se passe. Alors, ça amène à une réflexion qui a son importance, parce qu'elle permet en même temps d'articuler ces affaires-là. C'est-à-dire, dans le fond, la question de notre rapport à l'Esprit-Saint se joue à deux niveaux qui sont complémentaires. Vous avez un niveau qui est le niveau, si j'ose dire, ontologique, essentiel. C'est-à-dire, on est marqué de fait, qu'on le sente ou qu'on ne le sente pas, on est marqué de fait par l'Esprit Saint dans le baptême et dans la confirmation. Donc ça, c'est un niveau qu'on pourrait dire essentiel ou ontologique. Mais normalement, ce niveau doit trouver à se traduire aussi dans l'expérience concrète. Et en particulier, le rapport que le chrétien est appelé à développer avec l'Esprit Saint n'est pas simplement un rapport de pure foi dans l'obscurité, c'est aussi un rapport qui relève justement d'une capacité à percevoir l'action de l'Esprit Saint dans notre vie. Si saint Paul, par exemple, dit dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 16, « Laissez-vous conduire par l'Esprit Saint », comment fait-on pour se laisser conduire par l'Esprit Saint si on ne perçoit pas comment il nous conduit ? C'est-à-dire, pour que notre liberté s'oriente conformément au désir de l'Esprit Saint, il faut percevoir ce que l'Esprit Saint dit et l'identifier comme tel. Donc vous avez tout ce qu'on appelle une vie dans l'Esprit Saint qui est faite de disponibilité à ce que l'Esprit Saint veut pour nous dans notre vie, mais cette disponibilité inclut aussi cette dimension d'une expérience de l'Esprit Saint. Saint Paul, quand il parle par ailleurs, par exemple dans l'Épître aux Romains chapitre 8, des gémissements de l'Esprit Saint, eh bien, nous parle de quelque chose qui est bien mystérieux, qui se passe dans le cœur du chrétien, mais qui a peut-être à voir aussi avec cette sorte de gémissement qui se produit dans ce qu'on appelle le chant en langue, dans le renouveau. Donc, vous avez dans une foi qui est une foi qui est marquée par le mystère de l'incarnation, c'est-à-dire Dieu, dans le mystère de l'incarnation, s'est rendu visible, audible, palpable. On peut le toucher, le sentir. Saint Paul parle même de la bonne odeur du Christ. Hein? Donc il y a quelque chose qui engage la sensibilité humaine dans l'exercice de la foi. Hein? Et c'est à travers aussi cette sensibilité humaine que l'Esprit Saint manifeste sa présence, son action et ses désirs. Voilà. Donc vous voyez, il y a un côté qui est de l'ordre du mystère impalpable, parce que l'Esprit Saint, c'est aussi celui qui souffle où il veut, on ne sait ni d'où il vient ni où il va. Hein. Et en même temps, c'est un vent, donc un vent, on en sent quand même un peu quelque chose. Hein. Et ça va se traduire concrètement dans la vie chrétienne, dans le fait que ce mystère impalpable va se donner tout de même à percevoir et à expérimenter. Alors, percevoir et expérimenter, selon une logique qui touche aussi au symbole qu'utilise l'Écriture concernant l'Esprit Saint, c'est-à-dire si l'Esprit Saint est décrit comme une eau vive dans l'Évangile selon saint Jean, ou s'il est décrit aussi comme une flamme dans le récit de la Pentecôte, eh bien, il y a l'utilisation de ces images n'est pas simplement une belle image abstraite. C'est aussi une clé qui a un rapport avec la manière dont le chrétien peut faire l'expérience de l'Esprit Saint. Donc la flamme qui éclaire et qui brûle a sans doute quelque chose à voir avec une ardeur vécue par celui qui est saisi par l'Esprit Saint. Voilà. Donc il y a à retenir cette question à la fois d'une dimension ontologique et mystérieuse de l'action de l'Esprit Saint. Quand un bébé est baptisé, et puis en plus dans les églises orientales, quand il est confirmé le même jour et dans la même cérémonie, c'est évident qu'il ne sent pas grand-chose. Hein? Quelquefois, il sent l'eau froide et ça lui fait peur et il pleure, mais ceci mis à part, on ne peut pas dire qu'il ait une expérience de l'Esprit-Saint, alors même qu'il reçoit le sacrement qui change en profondeur son être même, puisque ces sacrements du baptême et de la confirmation lui donne l'identité de fils de Dieu et la capacité à agir comme fils de Dieu à mesure de la croissance qui va suivre. Hein? Mais donc ça reste très mystérieux, mais il faut que ça passe dans l'expérience et dans l'expérience sensible, parce que notre foi est une foi qui est liée à l'incarnation, et l'incarnation, c'est une révélation de Dieu qui est passée aussi par la matière, par les sens, par la sensibilité humaine. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a dit quelque chose qui en fait ne concerne pas uniquement le renouveau. Le renouveau a vécu ce côté davantage sensible de l'action de l'Esprit-Saint, d'une façon toute particulière et en référence à des textes bibliques bien précis. Mais en réalité, cette question du double aspect de l'action de l'Esprit-Saint dans la vie chrétienne, ça concerne toute vie chrétienne. Alors, dans le renouveau, ce sont des affaires qui ont donné lieu aussi à des manières spécifiques de faire, puisque un certain nombre de personnes qui peut-être ont déjà reçu l'initiation sacramentelle, mais qui ont le sentiment d'avoir vécu jusque-là dans une foi un peu formaliste ou un peu simplement volontariste, je fais ça parce que c'est ce qu'il faut faire pour être un bon chrétien, etc. Ce sont des personnes qui en même temps ont déjà été rejoints par un certain désir de Dieu et du coup désirent cette face plus manifeste et visible et sensible de l'action de l'Esprit-Saint dans leur vie. Donc ils demandent aux frères, dans le renouveau, à recevoir l'effusion de l'Esprit-Saint. Alors, en général, il leur est proposé une préparation pour cela. C'est une préparation dont l'essentiel, en fait, est de former dans le cœur des personnes la plus grande disponibilité et ouverture possible à ce que l'Esprit-Saint voudra faire d'eux à travers la façon dont il se manifestera et dont il les invitera à vivre sous sa conduite. Alors, remise de soi, conversion, prière, c'est pour ça qu'en contexte catholique aussi, en général, on associe cela pour ceux qui peut-être étaient loin des sacrements, un retour au sacrement de la réconciliation, parce que éliminer de sa vie tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu fait partie de cette démarche de remise de soi et de pleine disponibilité à ce que le Seigneur veut dans notre existence. Et puis, au terme de cette préparation, qui suivant les contextes peut durer le temps d'un séminaire de quelques jours ou alors se répartit de soirée en soirée au fil des semaines dans un groupe de prière et donc éventuellement sur quelques mois, eh bien la personne donc va vivre un temps qui est un temps de prière et d'intercession où elle est invitée donc à faire cet acte de remise d'elle-même, souvent avec ses propres mots, et puis où des frères vont prier pour elle, pour cette personne, pour que l'Esprit-Saint vienne dans sa vie. Et que se passe-t-il à ce moment-là? Eh bien, un certain nombre de personnes vivent une expérience relativement semblable à ce qui se passe dans les Actes des Apôtres ou à ce qui s'est passé chez les étudiants de Duquesne. D'autres ont l'impression qu'il ne s'est rien passé. Mais au fil du temps, ils vont s'apercevoir que progressivement grandit une ardeur nouvelle, qu'ils sont devenus des amoureux de la parole de Dieu, qu'ils ont soif de l'Eucharistie, qu'ils ont un désir de prier beaucoup plus profond, etc. Donc la question n'est pas tellement de savoir si en quelque sorte au moment de la prière d'effusion de l'Esprit-Saint il va se passer une méga douche de l'Esprit-Saint sur la personne, ou alors s'il va rien se passer du tout parce que je n'ai rien senti, hein. Le fait est que Jésus a aussi promis que l'Esprit-Saint ne sera jamais refusé à ceux qui le lui demandent, hein. Et ça veut dire que sous une forme ou sous une autre, l'Esprit-Saint va se donner, quelquefois d'une manière très sensible, d'autres fois d'une manière plus discrète, mais qui sera tout à fait perceptible, en particulier à travers les fruits de l'Esprit-Saint, hein, à travers ce qu'il produit dans la vie de la personne, qui s'apercevra au bout de quelque temps qu'elle, en quelque sorte, elle n'est plus le même chrétien qu'elle était auparavant. Alors, ça ne veut pas dire non plus que brusquement la personne est devenue un saint canonisable, hein, parce que cette venue de l'Esprit-Saint vient aussi sur tous nos terrains blessés, compliqués, pécamineux, etc. Quelquefois, il s'y associe des grâces de consolation, de guérison. D'autres fois, la personne est appelée à accepter aussi progressivement que certes l'Esprit-Saint est venu et lui a donné une nouvelle vigueur dans sa vie chrétienne, mais ça n'a pas résolu comme par magie tous ses problèmes, hein. Et donc on reste tous des pauvres types en gros, hein. Mais voilà, il y a, on observe ces fruits, et parmi les fruits aussi on voit que naissent souvent à cette occasion-là des charismes dans la vie de la personne. Alors sont des avec des expériences qui à nouveau qu'elles rejoignent un petit peu les listes de charismes que saint Paul signale dans la première aux Corinthiens. Mais pas seulement non plus. Donc on verra un petit peu d'ailleurs cette question des charismes, à quoi elle correspond. En tout cas, si on réfléchit à cette affaire-là, qu'est-ce qu'on peut en dire ? On peut en dire, bon, il y a une grâce qui en réalité fait partie des rythmes de toute vie chrétienne, qui est cette grâce en fait de l'entrée dans la vie de l'Esprit-Saint, qui suppose une expérience de l'Esprit-Saint pour pouvoir l'accueillir comme notre guide et donc suivre ce que sont ses désirs et ses appels. Hein. C'est un appel de toute vie chrétienne. Ensuite, il y a la manière particulière qu'a le renouveau charismatique d'appeler cette grâce de l'accueillir à travers cette prière des frères que je vous ai décrite, hein, mais qui est juste une manière de faire correspondant à l'histoire du renouveau et qui ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas vécu cette manière-là n'ont pas vécu en fait la grâce d'effusion de l'Esprit-Saint telle qu'on peut l'entendre d'une manière plus générale. Et d'ailleurs, c'est une question que tout le monde peut se poser dans sa propre vie, le fait de se dire, dans le fond, ce qui fait que j'ai été, de manière décisive, attaché au Christ, désireux de le suivre, de me donner pour que son œuvre se déploie dans le monde, à travers mon témoignage, à travers l'évangélisation, à travers mes actes d'amour, etc. Hein. Ce qui m'a attaché de façon décisive au Christ, alors que tant d'autres, peut-être, se sont éloignés, hein, puisque nous sommes dans un monde quand même où on aura vu sans doute pas mal de personnes que nous connaissons s'éloigner de la foi. Qu'est-ce qui fait que moi je ne me suis pas éloigné, ce qui est déjà une chose, mais non seulement cela, mais qu'éventuellement je suis rentré dans cette ardeur et ce désir de me donner, hein. Eh bien, en fait, ça a pu passer par toutes sortes d'événements. Pour certains, ça aura été le renouveau, mais pour d'autres, ça aura été tout autre chose. Il arrive que certains, au cours d'une messe particulière, l'Esprit-Saint leur tombe dessus et ils découvrent en quelque sorte toute leur vie chrétienne resplendie d'une façon nouvelle parce qu'ils ont palpé un peu et expérimenté qu'ils sont véritablement aimés de Dieu et appelés par lui. Hein. Ou pour d'autres, ça sera passé à l'occasion de leur fréquentation de l'Écriture sainte, où brusquement, un verset qu'ils ont peut-être lu des centaines de fois jaillit sur eux comme le Seigneur qui leur dit c'est pour toi que je te dis ça aujourd'hui. Hein. Quand on lit l'histoire par exemple de saint Antoine, on voit qu'il se passe quelque chose de cet ordre-là. C'est un homme pieux et puis un jour il rentre dans une église et il entend la parole que Jésus adresse à l'homme riche de tout laisser pour le suivre et il a compris que cette parole était pour lui ce jour-là. Voyez. Eh bien, on peut dire, bon, ça se traduit à travers la concrétude de la parole qui transperce son cœur à ce moment-là, et ça prend cette forme-là pour lui. Mais en langage lié à l'action de l'Esprit-Saint, on peut dire que c'est une effusion de l'Esprit-Saint. Hein. Et ça n'est pas passé par le renouveau charismatique qui n'existait pas à l'époque de saint Antoine. Hein. Hein, mais vous voyez, ça peut prendre toutes sortes de formes. Quelquefois, c'est lié à des rencontres, quelquefois des événements totalement à l'improviste. Je me rappelle une personne relativement âgée qui me disait, moi, que de fait, j'identifiais comme une paroissienne qui vivait une certaine ardeur et une passion pour le Christ et pour l'Église, dire, moi, ça s'est passé un jour, en fait, j'étais en mauvaise santé, j'étais à l'hôpital, je me revois encore, j'étais en train de monter des escaliers et brusquement, il y a un rideau qui s'est déchiré. Et j'ai compris que le Seigneur m'aimait. Et c'était en montant des escaliers dans un hôpital. Bon. Voilà. Donc, il y a dans les histoires personnelles des événements de cet ordre-là. Et quelquefois, c'est intéressant à la fois de faire mémoire, si on a vécu quelque chose de cet ordre-là, quelque forme que ça ait pu prendre, mais qui en général est une sorte de basculement qui, quand on était déjà chrétien, fait passer d'une foi qu'a posteriori on perçoit comme un petit peu un peu légaliste, un peu volontariste, à une foi qui relève cette foi de quelque chose de profondément enraciné dans le cœur et source d'une ardeur qui conduit à se livrer davantage à l'action du Seigneur pour que son œuvre se fasse dans notre vie et autour de nous. C'est de là aussi très souvent que naît le désir d'évangéliser. Parce que quand on prend un chrétien qui finalement peut-être en est resté à ce qu'il fallait faire pour être un chrétien et qu'on lui parle d'évangélisation, en général, ça provoque quoi ? Ça provoque essentiellement de la trouille. Hein, exactement comme les apôtres avant la Pentecôte d'ailleurs. Hein. Mais un des signaux que l'Esprit-Saint survient, c'est que la personne fait une expérience de surabondance, sous une forme ou sous une autre, et du coup ce qui est reçu ne peut pas rester enfermé, parce que ça déborde et il faut que ça ressorte. Hein. Jean-Paul II décrit très bien ça dans son encyclique Redemptoris Missio, c'est sur la mission, où il dit que la logique missionnaire est liée à cette expérience de surabondance. Si on accueille vraiment le don de Dieu, comme il est trop grand pour nous, ça ne peut que rejaillir. Voyez. Alors l'expérience de l'effusion de l'Esprit-Saint, c'est de cet ordre-là, mais on aurait bien tort de penser que ça n'existe que dans le renouveau charismatique. En réalité, toute vie chrétienne, quand elle se développe, est appelée à rentrer dans quelque chose de cet ordre-là. Et ça se traduit de toutes sortes de manières suivant les contextes. En Italie, il y a un mouvement étudiant qui s'appelle Communion et Libération, et dans lequel, sous un autre langage, ils insistent sur l'expérience de la rencontre avec le Christ. Hein. Et en parlant d'une expérience qu'ils appellent lo stupore, donc la stupeur, l'étonnement. Hein. Et bien, en substance, on peut dire, bon, c'est monnayé en rapport avec la personne du Christ, mais c'est la même expérience que celle que le renouveau expérimente sous le nom effusion de l'Esprit-Saint, puisque le Christ n'agit que par son Esprit-Saint, et l'Esprit-Saint, c'est l'Esprit du Christ. Donc à terme, les affaires se rejoignent. Ou alors, vous avez beaucoup de jeunes qui auront été, qui auront fait des basculements spirituels décisifs dans leur vie chrétienne, parce qu'ils sont dans le scoutisme et qu'à l'occasion d'un grand rassemblement à Vézelay ou à l'occasion de leur départ routier, etc., ils auront vécu, à travers la préparation qu'ils auront faite, ces dispositions qui auront permis à l'Esprit-Saint de prendre davantage possession de leur vie. Voilà. Mais interrogez-vous sur vous-même, parce que, par ailleurs, quand on parle de l'effusion de l'Esprit-Saint, on en parle comme l'événement de l'entrée dans la vie dans l'Esprit-Saint, mais ça n'exclut pas ensuite, évidemment, que l'Esprit-Saint puisse, sous différentes formes, intervenir librement dans notre existence. Hein. On dit l'effusion de l'Esprit-Saint pour parler de cet événement premier qui fait rentrer dans cette vie dans l'Esprit-Saint, mais ça ne sera éventuellement pas le seul. C'est-à-dire que d'avoir vécu une grâce du bon Dieu sous cette forme-là, n'empêchera pas l'Esprit-Saint peut-être de communiquer d'autres grâces sous d'autres formes, hein, parce qu'il est libre, il souffle où il veut, et aussi il se communique selon les nécessités des temps. C'est-à-dire, nous vivons une histoire, à tel moment nous avons peut-être davantage besoin de telle forme de grâce, à tel autre moment de telle autre forme de grâce, et l'Esprit-Saint va se communiquer selon aussi. Enfin, il nous accompagne dans notre histoire comme il accompagne l'Église dans son histoire. Alors, ça conduit aussi à distinguer, je vais davantage parler au niveau des charismes, assez rapidement. Dans le Concile Vatican II, vous avez une grande constitution dogmatique sur l'Église, Lumen Gentium, et en particulier un numéro 12 de Lumen Gentium, qui est intéressant à lire, parce que justement, c'est un texte qui parle des charismes. Alors, première observation, c'est un texte sur l'Église, pas sur leur nouveau charismatique qui n'existait pas encore. Ce qui veut dire que la question des charismes, c'est une question qui concerne toute l'Église. Hein? Ensuite, le texte fait une distinction entre des grâces qu'on pourrait appeler des grâces qui tiennent à l'identité même de l'Église, et donc qui sont pérennes, universelles, qui existeront jusqu'à la fin du monde. Bon, par exemple, les sept sacrements. Ils sont là depuis le début de l'Église et ils existeront jusqu'à la fin de l'Église. Donc si l'Église était privée d'un sacrement, elle serait atteinte dans son être même, vous voyez, hein? Ou si l'Église était privée de l'Écriture sainte, elle serait atteinte dans son être même, hein? Et donc là, on parle de grâces qui ont un caractère essentiel ou structurel et qui sont de l'Église et pour toute l'Église. Et puis, il y a d'autres types de grâces qui sont des grâces que le Concile appelle des grâces spéciales. Alors, spéciales, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des grâces qui vont se produire pour l'Église à un moment donné parce qu'elle en a besoin à ce moment-là. Alors, ça peut concerner les personnes, hein, ou ça peut une grâce de consolation à ce moment-là parce que ce chrétien qui vit telle épreuve en a besoin, hein. Ou alors ça peut concerner aussi par exemple des naissances de communautés. Donc le numéro 12 appelle ce type de grâce des charismes. Et l'Église en réalité a besoin des deux. Vous voyez, donc il y a le charisme franciscain qui a été donné à l'Église à ce moment-là parce que l'Église en avait besoin, et comme manifestement elle en a toujours besoin, ben les franciscains continuent d'exister. Hein? Il paraît même que Jésus a promis à Saint François qu'ils existeraient jusqu'à la fin du monde. Mais, à la limite, c'est l'objet, si c'est le cas, c'est l'objet d'un don gratuit, mais qui n'était pas nécessaire du point de vue de la nature même de l'Église, puisque l'Église a existé 12 siècles sans les franciscains, et si les franciscains cessaient d'exister, l'Église resterait l'Église. Voyez. Par contre, si l'Eucharistie cessait d'exister, l'Église ne serait plus l'Église. Hein? Voilà, toute la différence est là. Hein? Alors, l'Église a besoin des deux. Et ça vaut à la fois donc du point de vue personnel, du point de vue communautaire et du point de vue ecclésial. Alors, quand il s'agit de naissance de communauté, eh bien voilà, ça permet de se dire, voilà, telle communauté est née ou tel mouvement est né, et ça a été donné par l'Esprit-Saint parce que l'Église en a besoin à ce moment-là. Alors, ça veut dire une chose, évidemment, ça veut dire qu'il ne faut pas opposer les charismes et les sacrements. Ils ont un caractère, ils ont des fonctions différentes. Il faut donner, évidemment, une priorité structurelle aux grâces essentielles, hein, qui deviennent aussi un critère de discernement pour savoir si un charisme est authentique. Parce que quand il se produit quelque chose, il reste toujours à s'interroger, est-ce que c'est bien l'Esprit Saint ou est-ce que c'est juste l'imagination humaine, ou est-ce que c'est le démon, parce qu'il arrive aussi quelquefois au démon de produire des choses, hein. Et donc il y a un discernement à opérer, et parmi les critères de ce discernement, il y a évidemment le fait que ce qui est structurel dans l'Église doit toujours, en cas de conflit, prévaloir par rapport à ce qui est circonstanciel. Mais quand il s'agit d'un charisme authentique, les choses s'épousent et entrent en synergie pour que l'Église produise davantage de fruits en fonction des défis qu'elle est appelée à vivre à ce moment-là. Alors, parmi les charismes, alors là, cette fois-ci à titre d'ordre plus personnel, le texte distingue entre les charismes ordinaires et les charismes extraordinaires. Tous viennent de l'Esprit-Saint, tous, comme saint Paul le dit dans la première aux Corinthiens, sont distribués gratuitement par l'Esprit-Saint, donc ça n'est pas le fruit d'une nécessité ou d'un mérite de la part des personnes qui les reçoivent. Hein. Mais certains ont un caractère humble et caché, et d'autres ont un caractère plus manifeste et visible, en particulier donc des charismes de type extraordinaire, qui donc vont éventuellement porter avec eux une dimension même limite miraculeuse. Vous voyez, enfin quelque chose qui n'est pas explicable dans le cadre des capacités humaines normales et habituelles, même illuminées par la foi. Donc, charisme de profil ordinaire. Eh bien, voyez, par exemple, dans un groupe, dans une communauté, vous avez des personnes qui ont des grâces particulières d'accueil. Alors, on peut dire, est-ce que c'est des capacités humaines ou est-ce que c'est l'Esprit-Saint ? Alors, en fait, c'est un peu les deux, à vrai dire. Parce que souvent, ce sont des personnes, par exemple, vous avez des personnes, alors ça, c'est pas mon cas du tout, mais qui, il suffit qu'ils aient rencontré quelqu'un une fois pour qu'ils aient retenu les circonstances, le nom de la personne, etc. Ce qui fait que quand ils vont la revoir, ils vont pouvoir lui dire « Ah, bonjour un tel, tu te rappelles, on s'est vu, on avait parlé de ça, etc. » Alors, il y en avait un qui était un champion absolu dans ce genre de grâce-là, c'était le cardinal de Courtrai. Il avait une mémoire extraordinaire des personnes et des circonstances. Moi, je suis absolument un handicapé sur ce terrain-là. Mais bon, précisément, l'Église fleurit avec toute la diversité des charismes. Donc, une grâce d'accueil, vous voyez, il n'y a pas un miracle. Mais il y a quelque chose où on voit que manifestement, l'amour se communique d'une manière un peu singulière à travers une grâce et un talent illuminé par l'Esprit-Saint et par la charité. Vous allez avoir, donc parmi les charismes ordinaires, bon là c'est peut-être plus, en tout cas ma mission, le charisme d'enseigner. Or enseigner, il y a des capacités d'ordre pédagogique qu'on a reçues ou qu'on n'a pas reçues, et puis qui, illuminées par l'Esprit-Saint, permettent une communication plus profonde de ce qui doit être dit. Et l'Église a besoin de personnes qui soient porteuses du charisme d'enseignement. Mais vous allez avoir aussi des charismes qui vont prendre une figure un peu singulière et avec un caractère surnaturel visible, et c'est cela qu'on appelle les charismes extraordinaires, hein, et comme par exemple donc des charismes dits de connaissance. Donc qui sont liés en général à des événements de guérison dans une assemblée chrétienne et où quelqu'un va dire « telle personne qui a tel problème est en train de vivre une guérison à l'égard de telle maladie », etc. Et avec des choses qui sont tellement circonstanciées que la personne ne peut que se reconnaître. Hein. Si vous dites simplement « il y a une personne dans l'assemblée qui est très émue parce que les chants sont beaux », en fait, il y en a sans doute pas qu'une seule. Si les chants effectivement sont beaux, il y en a peut-être des dizaines ou des centaines. Par contre, si elle dit la personne se reconnaîtra parce que ce matin elle a oublié ses clés au moment de partir, bon, ça donne des circonstances très singulières qui font que la personne par ailleurs se reconnaît aussi dans les souffrances dont elle est guérie et à la fois dans des circonstances qui ne peuvent concerner qu'elle. Hein. Voilà. Alors là, on a quelque chose qui est donné et qui dépasse la capacité humaine de connaissance, qui est une connaissance de l'Esprit-Saint. Voilà. Alors, que dit le Concile ? Le Concile dit que toutes les grâces sont à accueillir, qu'il faut une prudence particulière à l'égard des charismes extraordinaires, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils puissent être discernés et vérifiés. Alors, comme tous les charismes, mais disons, quand on est dans l'ordre des charismes ordinaires, comme ils ont un impact moins immédiatement visible, c'est moins important qu'ils soient discernés. Mais quand il s'agit de grâces de type prophétique, connaissance ou choses comme ça, ou qui peuvent, si jamais ils ne sont pas authentiques, véhiculer bien des illusions aussi, il y a une exigence particulière de vérification des charismes. Alors le Concile rappelle qu'il y a dans l'Église des gens qui ont reçu mission de discerner les charismes et qui sont les pasteurs de l'Église, le pape, les évêques, les prêtres. Et donc, on ne peut pas opposer une sorte de renouveau qui se vivrait sans qu'il y ait besoin de prêtres et puis la structure hiérarchique de l'Église. En fait, les prêtres ont une mission de discernement des charismes. Et en même temps, ils n'ont pas le monopole du discernement, puisque vous avez en réalité beaucoup de chrétiens qui ont des grâces de discernement, de bon sens chrétien et de capacité à reconnaître si c'est Dieu qui agit ou si c'est juste l'imagination humaine ou voire pire. Alors, et à nouveau, quand on parle des charismes dans ce sens très large, de ce que le Seigneur communique aux personnes et à l'Église au fil de leur histoire et de leurs besoins, eh bien, les charismes ne sont pas un monopole du renouveau charismatique. Simplement, c'est vrai que dans le renouveau charismatique, cette dimension des charismes se manifeste de façon plus vigoureuse et visible. Et donc, il y a peut-être, d'un point de vue quantitatif, davantage de charismes qui ont un profil un peu extraordinaire. Mais c'est simplement lié à la mission du renouveau pour toute l'Église, qui est de rappeler à toute l'Église sa dimension charismatique. Voyez, en réalité, donc, il ne s'agit pas de dire qu'est-ce que c'est que ces chrétiens qui prétendent avoir des charismes et nous, on n'en aurait pas. Il s'agit de dire, bon, il y a une manifestation peut-être plus puissante de cette dimension de la vie de l'Église dans le renouveau, mais c'est pour toute l'Église, c'est pour réveiller en nous ce sens des charismes, des dons que nous avons reçus et de la façon dont le Seigneur désire qu'ils fructifient dans notre vie, à la fois pour l'Église et puis pour l'évangélisation du monde. Voilà.